Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce tout début d'année, Franck Ferrand est de retour au micro d'Europe 1 avec tout un lot de sujets pour bien commencer 2013. Bonjour Franck et bonne année, monsieur.
Bonne année, chère Julia, et bonne année à vous tous. Nous sommes revenus de vacances avec toute une provision de beaux sujets. Dans les jours et les semaines qui viennent, nous allons évoquer les mille et une nuits, la civilisation du cheval, l'Énéide de Virgile, mille ans de rivalité franco-britannique, le cirque de nos aïeux ou encore l'énigme d'Arlan. Voilà de beaux moments en perspective.
Effectivement. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'astronautes et de cosmonautes.
Oui, et de spationautes, puisque nous allons revivre la saga de l'espace en mettant l'accent dans un premier temps sur les découvertes françaises. En compagnie de notre ami Alain Siroux et des biographes de Neil Armstrong, qui nous a quittés là très récemment, cet été, nous allons donc commencer l'année en repoussant les horizons.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Tout à l'heure, donc, en compagnie des biographes de Neil Armstrong, nous allons revivre cette fameuse nuit de juillet 1969 où s'est réalisé l'un des plus grands rêves de l'humanité, aller marcher sur la Lune. Cyrano de Bergerac l'avait imaginé, Jules Verne, avec un siècle d'avance, avait publié deux romans, on va dire même deux romans et demi sur le sujet. Et puis plus près de nous, bien sûr, Hergé, avec ses célèbres albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune, avait en quelque sorte popularisé non seulement la conquête lunaire, mais l'image de la fusée. Oh, ce n'était pas une invention récente, la fusée à propulsion gazeuse. On en connaissait le principe depuis le XIe siècle au moins. On en a construit tout le temps, au XVIIIe, au XIXe siècle. Mais c'est au XXe siècle que l'instrument est devenu efficace, avec les terribles V1 et V2 lancés par les Allemands, notamment sur Londres et sur Anvers, en 1944. Or, les ingénieurs allemands qui avaient mis au point ces machines terribles à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, ont été récupérés par les Américains, quelques-uns aussi par les Soviétiques, qui étaient très intéressés par les fusées parce qu'elles pouvaient emporter des charges atomiques. Il faut se remettre dans le contexte. On est alors en pleine guerre froide, les deux superpuissances de l'époque se sont lancées dans une effroyable course aux armements. Or, dans cette compétition sauvage, le contrôle de l'espace intersidéral est considéré comme essentiel. D'où une autre course, pacifique en apparence, mais qui ne l'était pas tant que ça, la course à l'espace. Alors, je suis désolé, ça casse un peu le rêve, évidemment, mais la conquête lunaire en particulier, et puis d'une façon plus générale, la conquête spatiale, c'est le résultat direct de cette course à l'espace, course acharnée, pour ne pas dire sordide, entre Américains et Soviétiques. Dans cette compétition, les Russes ont pris l'avantage d'entrée de jeu. En octobre 57, vous vous rappelez qu'ils ont créé un choc planétaire en annonçant le succès de Sputnik, le premier satellite artificiel jamais lancé. Or, dès le mois suivant, ils envoyaient un petit animal, la chienne Laika, en orbite autour de la Terre. Et évidemment, de l'autre côté de l'Atlantique, à la Maison-Blanche, ou du Pacifique, comme vous voudrez d'ailleurs, puisqu'on parle de ces deux superpuissances, à la Maison-Blanche, on est à la fois surpris, consterné, il faut réagir. Le président Eisenhower, tout de suite, annonce la centralisation des moyens de recherche dans une agence nationale qui deviendra la NASA. Et il annonce surtout l'accélération du programme spatial. Les Soviétiques jubilent et rien que pour énerver les Américains, ils multiplient les effets d'annonces prestigieux, notamment en avril 61. Ils sont encore les premiers, vous savez, à cette date à envoyer un homme dans l'espace. C'était Youri Gagarin. Nous avons célébré avec Alain Siroux à cette antenne le cinquantenaire de l'événement il y a quelque temps. Et puis dès le mois suivant, le président Kennedy se croit obligé de répliquer et selon son habitude, il lance un énorme coup de bluff. Kennedy proclame la ferme intention de son pays d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Le monde est un peu incrédule. Les Soviétiques ricanent, ils ont tort. Parce qu'aux États-Unis, cette déclaration solennelle du président est prise très au sérieux. Des moyens sans précédent sont mis en jeu. Plus de 300 000 ingénieurs et techniciens supérieurs vont désormais consacrer tout leur temps à atteindre cet objectif en apparence inaccessible. Et les premiers résultats ne se feront pas attendre. Dès février 62, les Américains font faire à John Glenn, leur premier astronaute, trois révolutions terrestres. Fin 65, ils parviennent à faire voler deux cabines Gemini à moins d'un mètre de de distance. Et en mars suivant, Gemini 8 est arrimé en vol à la cible Agena. Et 3 mois plus tard, les Américains parviennent à poser en douceur leur sonde Surveyor sur la Lune. Il est vrai qu'à la même époque, les Russes ont mis Luna 10 en orbite autour de cette Lune tant convoitée. Vous voyez qu'on s'approche du moment fatidique. Les autres pays en sont un petit peu réduits, disons-le, à compter les points. Et au premier rang d'entre eux, la France, que cette conquête spatiale est loin de laisser indifférente. En vérité, il existe alors une véritable politique française de l'espace. Et si vous voulez bien, c'est sur elle que j'aimerais revenir pour commencer cette émission en compagnie d'Alain Siroux.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous revivons aujourd'hui sur Europe 1 quelques grands moments de la saga de l'espace en compagnie de votre invité Franck Alain Siroux, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Parler de ciel et d'espace avec Alain Siroux, ça c'est bien commencer l'année. Bonjour Alain, merci d'être là dès ce 2 janvier.
Bonjour Franck, bonjour Julia.
Bonjour Alain.
Bonne année.
Alors nous étions dans cette espèce de concurrence, de guerre sourde, guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. On est donc pendant toutes les années 50, cette espèce de course à l'espace. Que fait la France pendant ce temps? La 4e République s'intéresse un peu quand même à l'espace.
Oui, c'est vrai. Elle s'intéresse aux fusées sondes en particulier. C'est-à-dire que il est évident pour les scientifiques que explorer l'espace, c'est un rêve. Mais ils s'intéressent avant l'espace à l'atmosphère, et en particulier à l'atmosphère haute. Donc les premiers travaux pour l'espace en France vont être, je dirais, motivés par l'exploration de l'atmosphère jusqu'à
tourner vers la Terre en quelque sorte.
Exactement. Et en particulier à l'approche de l'année internationale polaire, de l'année géophysique. Donc on s'intéresse à la Terre en tant qu'objet scientifique que l'on veut étudier d'en haut, parce que justement, à partir de l'espace, il n'y a plus de frontières.
On n'est pas encore dans une véritable concurrence avec Américains et Soviétiques, il faut être
pas
honnête.
On n'est pas du tout de taille. Et on regarde ça en ne pensant même pas que ce soit possible jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle en juin 1958, qui, prend des positions extrêmement claires, en particulier par rapport aux États-Unis. Nous voulons être indépendants, dit De Gaulle, et nous voulons avoir une arme de dissuasion, nous voulons la dissuasion nucléaire. Nous voulons avoir l'arme atomique. Et pour avoir l'arme atomique, alors il faut avoir ce qu'on appelle le vecteur, la fusée, le missile balistique intercontinental capable d'atteindre, deux potentiels ennemis sans pour autant les désigner. Donc De Gaulle va impulser la création d'une société qui restera célèbre en France, qui s'appelle la Société pour l'étude et la réalisation d'engins balistiques, la CEREB, en ancêtre, du CNES en France.
C'est l'ancêtre du CNES, oui, voilà. Alors, on va commencer à fabriquer ces lanceurs, ouais, en quelque sorte. Ouais. Et en 1965, un lanceur de satellite construit par les Français est le premier, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier vecteur qui soit lancé, ni des États-Unis ni d'Union soviétique.
La France va devenir la troisième puissance spatiale, voilà, vraiment au monde. Et en fait, je dirais que c'est progressif. C'est-à-dire qu'on a effectivement d'abord travaillé en France à Véronique, qui est, la fusée sonde, qui a été fabriquée à Vernon. Parce que Véronique, ça veut dire Vernon électronique. et d'ailleurs, dans les équipes, il y avait des savants allemands, qui avaient été, prélevés, entre guillemets, sur le contingent de guerre
quatre puissances allemandes occupantes, hein, bien sûr.
Voilà, sur les V2. Et je dirais que le travail de la société d'études a été de fabriquer un programme bien connu qui s'appelle les pierres précieuses. L'idée, si vous voulez, il y a une différence entre lancer une fusée sonde, atteindre 100 km, 150 km, et puis retomber sur la Terre, et puis mettre un satellite en orbite. C'est pas du tout les mêmes puissances. Pour envoyer un satellite en orbite, il faut beaucoup de puissance, faut atteindre 28 000 km/h, il faut pouvoir guider la fusée, il faut pouvoir piloter toutes les phases de vol, les séparer les 3 étages. Et donc, on va faire morceau par morceau, étape par étape, dans un programme qui va s'appeler le programme des pierres précieuses. Et les premières fusées, en tout cas les ancêtres de la fusée Diamant, qui est le premier lancement, s'appellent Agate, Topaz, Émeraude, Saphir.
Ça rapproche du diamant.
Et le diamant, c'est vraiment le summum. Et ces fusées sondes, je dirais, qui sont chargées d'expérimenter toutes les phases balistiques, sont expédiées d'Algérie, en particulier du désert algérien du sud, d'Abaguir. Et vous l'avez dit, effectivement, le premier tir français de diamant, donc qui va satelliser pour la première fois un engin qui s'appelle
Astérix aura lieu ça sera le 26 novembre 1965 pour un petit satellite qui était tout nu, il pesait 39 kilos.
À cette époque, l'Algérie était donc indépendante depuis 3 ans,
absolument.
Mais il y avait les fameuses clauses des accords d'Évian qui permettaient à la France de continuer ses expérimentations. Alors, et ses lancements.
Toute petite anecdote, on attendait le bip-bip.
Voilà,
comme
bien sûr.
Pour le Spoutnik. Et puis, quand les ingénieurs ont vu passer, rien, il ne se passait rien, c'était un silence total. Et tout le monde s'est inquiété. Et alors là, les Américains ont envoyé un téléx en disant, on l'a repéré, il est sur la bonne orbite. Simplement, quand la coiffe s'était ouverte, elle avait cisaillé les petites antennes qui étaient chargées de transmettre le bip-bip. Donc c'était un Astérix victorieux.
Un Astérix muet.
Mais un Astérix muet.
Alors, on est quand même en coopération avec les Américains dans cette affaire. Mais il y a toujours cette farouche volonté d'indépendance. Du général de Gaulle, en fait.
Ouais, on est un peu chien et chat. Je dirais pour les Américains, on est plutôt souris. Eux sont chats. Donc, je dirais que ça va plutôt bien se passer. Sauf que déjà pour les Américains, c'est stratégique. C'est-à-dire que l'accès à l'espace, qu'on appellera par la suite la space dominance américaine, ça consiste à tenir tous les vecteurs technologiques pour faire que les autres n'en profitent pas. Et quand les Français et les Allemands vont vouloir fabriquer leur premier satellite de télécommunication expérimentale qui s'appelle Symphony, et qu'ils n'auront pas à ce moment-là encore... Diamant n'était pas assez puissant, Ariane n'était pas encore née, etc. Donc on a cherché à l'expédier grâce à une fusée. Les Américains ont dit, il n'y a pas de problème, on vous l'envoie, mais vous n'aurez pas le droit de l'exploiter commercialement.
Ah oui, alors là,
Diktat commercial. Eh bien, grâce à ce diktat commercial, on a décidé en France, et on a convaincu les partenaires européens de s'assembler et de réussir à fabriquer ce qui deviendra l'Agence spatiale européenne et ensuite Ariane.
Et ça va devenir, oui, c'est le lancement de cette coopération européenne, puisque l'espace dont nous parlons, cette conquête pacifique du reste de l'espace vu d'ici, ce n'est pas français, c'est européen bien sûr.
Composé par Richard Strauss, extrait de la bande originale du film de Stanley Kubrick 2001, L'Odyssée de l'espace, Franck.
Et oui, ce film qui a évidemment ouvert des horizons, parce que au-delà de la conquête spatiale, il nous parlait de l'intelligence artificielle déjà, et de tout ce que ça pouvait poser. Alors, revenons à des considérations encore assez terre-à-terre, puisque notre toute première fusée européenne, elle avance vraiment à petits pas, disons-le.
Ah oui, d'ailleurs, la première qui s'appelle Europa.
Ils ne sont pas trop fatigués pour trouver un nom.
Ils ne sont pas trop fatigués, mais au moins ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, c'est l'Europe et ce sont les Anglais. Et c'est ça qui est surprenant, qui les premiers proposent ce projet avec un assemblage qui est assez extraordinaire. Vous avez 3 étages, le premier est anglais, le second est français et le troisième est allemand.
Quel symbole !
Quel symbole ! Le problème, c'est que personne ne parle... Les Anglais ne parlent pas aux Français, les Français ne parlent pas aux Allemands.
C'est un peu la tour de Babel, cette fusée-là.
50 partenaires différents, chacun teste dans son coin les étages de la fusée. 3 lancements, 3 échecs. Et ça, c'est quand même excessivement épouvantable pour les Européens.
On peut dire que ça n'a probablement pas été de très bon augure pour l'espace européen, disons-le. C'est-à-dire que ces 3 échecs ont fait un tort considérable, ne serait-ce qu'en termes de communication, tout simplement. Pour les opinions publiques, c'est devenu presque un objet de risée à l'époque, il faut le dire.
Oui, c'était extrêmement difficile de convaincre les populations et donc les pouvoirs politiques de continuer ce financement.
On l'a tiré d'où, cette fusée?
Alors, on l'a tiré d'abord d'Australie. Mm-hmm. Les Australiens avaient prêté un pas de tir. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième programme qui s'appelait Europa 2. Les Anglais étaient sortis. On l'a tiré de Guyane, du centre spatial de Kourou. Et là aussi, donc 4e lancement, échec. Et donc, tirer les conclusions de cet échec, finalement, c'était extrêmement compliqué. Sauf que les Américains, ayant refusé l'utilisation commerciale de Symphonie, comme on en parlait tout à l'heure, pour les Européens, alors les Européens se décident finalement de fabriquer un programme avec les moyens de ce programme. C'est-à-dire, nous travaillons ensemble, il y a un maître d'œuvre, et ce maître d'œuvre industriel va diriger, la fabrication d'Ariane. C'est pas simple, le pouvoir politique change. Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir en 1974 et propose d'arrêter le programme Ariane.
On n'est plus dans la grande perspective gaullienne à ce moment-là.
Plus du tout. Il propose d'arrêter Ariane. C'est extrêmement difficile de le convaincre. Donc on a failli ne pas avoir Ariane parce que c'est un processus extrêmement long que de fabriquer un lanceur qui fonctionne. Et il faudra attendre le 24 décembre 1979 pour que du centre spatial de Kourou, donc en Guyane, s'élève pour la première fois.
La veille de Noël.
La veille de Noël, avec des moments extraordinaires parce que les techniciens étaient fatigués. Il y avait eu des reports de tir, c'était compliqué, la pression était énorme, la presse était là. Et
le monde entier avait les yeux fixés sur la Guyane.
Absolument, et je dirais qu'un échec n'aurait pas été facile à surmonter. Et quand la fusée est partie, figurez-vous que sur le pas de tir, il y avait de la neige. C'était de l'hydrogène très froid qui s'était condensé. Et il y a eu une bataille de boules de neige sur le pas de tir, simplement pour lâcher, je dirais,
retomber la pression. Alors ça a été le cadeau de Noël de 70. Ce premier lancement d'Ariane, il y en a eu plusieurs après, dans les années 80, bien entendu. Hein. Et à chaque fois, Ariane 2, 3, 4, alors il y avait quand même des difficultés. Hein. Je me rappelle qu'on en parlait beaucoup. On disait, oh là là, Ariane a encore échoué, le lancement ne s'est pas bien passé. Enfin, ça ne s'est pas passé très facilement au début. Hein.
Parce que c'est un métier complexe et parce que on a sans cesse voulu améliorer la capacité d'Ariane en fabriquant une famille. Vous avez Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3, qui sont en fait à chaque fois des améliorations. Mais dès que vous touchez à un lanceur, à une fusée, il faut, comme on dit, la qualifier, c'est-à-dire la lancer plusieurs fois pour être sûr que les modifications, les améliorations soient fonctionnel, si je puis dire. Vous n'avez pas le droit à l'erreur du tout. C'est un territoire extrêmement complexe. Et quand vous regardez Ariane 3 ou je dirais ce qui deviendra après Ariane 4, eh bien, vous avez de la poudre, vous avez du liquide, vous avez de la cryogénie, donc du froid, vous avez un cerveau électronique. Il y a un ajout extraordinaire et vous vous retrouvez avec une gamme, comme des voitures en quelque sorte, de fusées dont vous pouvez ajuster les différents éléments en fonction de la charge utile, c'est-à-dire du satellite que vous allez expédier. Mais quand on regarde Ariane, je dirais que le succès va venir et les échecs seront à chaque fois quelque chose qui permettra
d'aller un peu plus loin. Et maintenant, c'est devenu un très grand succès. Alors, on reviendra à l'actualité, évidemment, de tout ça à la fin de l'émission. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 79, quand nous lançons Ariane 1, ça fait déjà 10 ans que les Américains ont foulé le sol de la Lune. Donc, on a un peu l'impression d'arriver... J'allais dire après la bataille, un petit peu quand même, il y a cette idée-là.
C'est vrai, mais on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que les Américains, comme les Soviétiques, se sont battus pour le vol habité. Et on va parler du vol habité avec Armstrong. Et le vol habité, quand les Européens s'y sont intéressés et ont imaginé fabriquer eux-mêmes une navette spatiale qui s'appellera Hermès et qui est restée dans les cartons, qui devait être lancée par Ariane 5, eh bien c'est l'addition qui a fait du mal à tous les gens qui étaient censés le payer, aux ministres. Donc l'espace qu'on va qualifier d'utile et le territoire sur lequel les Européens vont aller, c'est-à-dire observation de la Terre, télécommunications, renseignements, météorologie. Plus personne ne s'étonne aujourd'hui d'avoir des images qui viennent de l'espace. Pourtant, c'est révolutionnaire. Observation de la Terre et puis exploration scientifique. Ne pas oublier que l'espace est un territoire à partir duquel on regarde les planètes, l'univers. On explore au sens, je dirais, le plus noble du terme, un territoire qui nous est hostile et étrange. Donc c'est une association entre la science, la technologie, des intérêts économiques qui vont devenir prépondérants.
Voilà. Et Ariane veut faire la preuve de sa fiabilité, de sa rentabilité, mais oui. À la même époque, évidemment, les Américains se promènent en navette spatiale.
Oui, mais c'est leur erreur aussi, c'est-à-dire que étant absolument convaincu qu'ils pouvaient dominer le monde avec les navettes spatiales, ils proposaient un service tout à fait extraordinaire en disant, voilà, nous allons réparer les satellites avec notre navette, nous les amenons directement sur l'orbite. On n'a pas de
fusée. C'est l'hélicoptère de l'espace.
C'est l'hélicoptère de l'espace, on sort, on les répare, etc. On envoie des civils, des militaires, on peut même emmener le client à bord, etc. Sauf ça marchait jusqu'en 1986, quand la première navette spatiale va exploser. Et là, ça sera la chance d'Ariane, et en particulier d'Ariane Espace, la société qui a été créée pour commercialiser les vols de la fusée européenne.
Il n'empêche, la grande époque de l'espace, qu'on le veuille ou non, ça a bien été celle de cette course entre les Américains et les Soviétiques et celle de cette conquête lunaire. On était en 1969. Le héros de l'événement, c'est évidemment Neil Armstrong, auquel nous allons consacrer la deuxième partie de cette émission. On vient dans un instant dans le récit à cette histoire extraordinaire. On a marché sur la Lune en 69.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui nous fait revivre la conquête de la Lune.
Et oui, au moment où on apprend que grâce au programme Apollo, les Américains semblent capables d'envoyer un homme sur la Lune. Avant d'y arriver, inutile de vous dire qu'il aura fallu résoudre un problème de taille et qui se réduit à peu de mots. Envoyer des hommes sur la Lune, c'est une chose. Seulement une fois qu'ils sont là-haut, il faut être capable de les ramener sur Terre. Et ça, c'est une autre affaire. Et dès le début de l'aventure, dès 1958, c'est la grande difficulté à surmonter. Alors, bien sûr, il y a eu un certain nombre de projets fantaisistes. Pourquoi ne pas envoyer des réservoirs sur la Lune, ce qui permettrait aux astronautes de faire le plein avant de repartir? Il y a même eu mieux. Un très sérieux bureau d'études a proposé d'envoyer un homme sur la Lune avec un énorme ravitaillement qui lui permettrait d'attendre tranquillement des années, s'il le faut, que les ingénieurs aient trouvé un moyen de le ramener. Avis aux amateurs. Inutile de vous dire que ça ne se bousculait pas au portillon. Plus sérieusement, il y avait trois cas de figure possibles. Premièrement, celui que privilégiait l'administration Kennedy et qui consistait à faire l'aller-retour en mode direct. Le problème, c'est que ce procédé suppose la mise au point d'une fusée extraordinairement puissante, extraordinairement coûteuse à réaliser et à faire fonctionner, et que ça demandait des délais de mise au point sans doute très très longs. Une solution plus élégante avait été proposée par la NASA et soutenue par le grand ingénieur allemand dont on parlait tout à l'heure, le père des V2, Werner von Braun. On appelle cette solution le rendez-vous en orbite terrestre. Alors en fait, on envoie la fusée en orbite terrestre et puis de là, on envoie un second véhicule en quelque sorte pour faire le trajet un peu moins long jusqu'à la Lune. C'est plus rapide à mettre au point, c'est surtout moins coûteux. Puis il y avait une troisième solution, plus maligne encore, et cette fois on appelle ça le rendez-vous en orbite lunaire. Alors on envoie cette fois la fusée, un morceau de la fusée en tout cas, jusqu'à l'orbite de la Lune, et puis de là, on envoie un module qui va descendre jusqu'à l'astre lui-même. C'est une solution habile, économique, très légère à mettre en œuvre, mais qui relève techniquement de l'acrobatie. Il faut bien réaliser qu'au départ, on n'a encore jamais réalisé de manœuvre en orbite terrestre. Alors, vous imaginez, en orbite lunaire. Tout le monde écarte donc la troisième solution du revers de la main. Tout le monde, sauf un modeste ingénieur du centre de recherche qui s'appelle Humboldt, lui est convaincu, mordicus, de la valeur de cette troisième solution. Il le dit, il l'écrit à qui de droit, il le crie même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Et puis peu à peu, au prix de vexations terribles et de déceptions bien entendu, il parvient quand même à rallier quelques responsables à sa cause et un jour, il va réussir à convaincre Werner von Braun lui-même. Le savant allemand a fini par admettre qu'il était intelligent d'alléger le véhicule spatial d'étape en étape au point que la capsule finale, celle qui revient sur Terre, ne pèse plus que 5 tonnes, qu'il faut quand même comparer aux 3100 tonnes de la fusée de départ. Et Humboldt va finir par triompher. C'est sa solution qui est finalement retenu en novembre 1962, c'est-à-dire assez tôt dans le programme. Naturellement, la mise au point ne sera pas une partie de plaisir. Il faut 5 et même 6 missions pour parvenir à manipuler correctement les différents éléments du convoi. La mission Apollo 7 tourne, vous le savez, à la tragédie. En janvier 67, pendant des exercices d'entraînement, les 3 astronautes Grissom, White et Chaffee sont brûlés vifs dans leur cabine. Dès la 8e mission, on arrive à aller tourner en orbite autour de la Lune. Apollo 9 fait manœuvrer le module lunaire, mais en orbite terrestre. Et Apollo 10 le fait fonctionner, cette fois en orbite lunaire. Vous voyez qu'on s'approche. Le 11e essai devrait être le bon. Alors les équipages de service pour cette très décisive mission Apollo 11, l'équipage est composé de 3 hommes. Michael Collins, qui d'emblée sait que lui va rester dans la capsule en orbite, qu'on appelle Columbia. Et puis 2 autres qui vont aller en orbite autour de la Lune et iront dès lors se glisser dans le module lunaire en vue d'alunir. Donc Edwin Aldrin, Buzz Aldrin si vous voulez, et Neil Armstrong dont nous allons parler dans un instant. Tous les 3 sont nés en 1930, ils ont donc 39 ans. Ils sont entraînés, que dis-je, surentraînés, ils sont motivés à la vie, à la mort. Ils savent que toute la planète a les yeux rivés sur eux. Or, les experts les plus optimistes leur donnent à peine 50% de chances de réussir. Le 16 juillet, matin du grand départ, l'équipage d'Apollo 11 est en train de prendre son petit déjeuner comme chaque matin. Et là, on lui annonce la visite de l'administrateur général de la NASA. Et cet homme-là, évidemment, ne se déplace pas pour rien. Il insiste pour que les 3 hommes privilégient dans leur mission avant tout la sécurité. Et pour essayer d'alléger la pression qui pèse sur leurs épaules, il leur annonce que dans le cas où la mission viendrait pour une raison ou une autre à échouer, tous les 3 seraient retenus pour la prochaine tentative d'alunissage, histoire de faire en sorte qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne tentent pas le tout pour le tout. Et là, on est donc le 16 juillet à 14h32 heure française, juché au sommet d'une fusée Saturne V de 111 mètres de haut et qui déploie 155 millions de chevaux. La capsule Apollo 11 décolle de Cap Canaveral, qui a été rebaptisé Cap Kennedy. Il reste 18 mois avant la fin de la décennie. Vous vous rappelez ce qu'avait dit le président Kennedy? On peut dire que le pari de JFK a été tenu. La NASA, en tout cas, va tenter de tenir le pari.
Saturne, extrait des planètes composées par Gustav Holst, Franck.
Alors voilà donc nos 3 astronautes partis pour accomplir le plus grand exploit scientifique jamais tenté par l'homme. Tout semble vouloir se passer de la meilleure façon. Certes, à Houston, où se trouve la base de contrôle, on a eu peur d'une sonde soviétique, la sonde Luna 15, qui fait route exactement au même moment vers la Lune. Seulement les Soviétiques vont rassurer les Américains sur leurs intentions. Je pense quand même qu'il n'en pensait pas moins dans cette affaire. Mais enfin, c'est difficile à démêler. Le 18 juillet à 23h, la capsule Columbia, munie de son module lunaire, qu'on a baptisé Eagle, sont à 320 000 km de la Terre et à 62 000 de la Lune. Ce qui veut dire que ça y est, ils entrent dans la zone d'influence de la Lune. Leur vitesse augmente pour atteindre plus de 4000 km/h. Le samedi 19 juillet, Apollo entre donc en orbite lunaire à 18h22. Le lendemain dimanche, le module Eagle se détache de la capsule Columbia. Frustration intense de Collins, hein, mais il le savait qu'il allait rester dans la capsule pendant que ses 2 camarades s'en allaient. Il avait été entraîné à ça. Et à 13h46, Eagle passe du côté de la face cachée. On n'a plus de nouvelles pendant un très long moment. Et quand le module réapparaît, il n'est plus qu'à 25 km d'altitude. Au moment où commencent les manœuvres d'alunissage, en France, on est déjà le lundi 21 juillet. Naturellement, aux États-Unis, c'est encore le dimanche. À bord du module Aldrin et Armstrong ont les yeux rivés sur les indicateurs de bord. Le pilotage automatique doit les faire aluner tout seuls sur la mer de la tranquillité. Ça ne s'invente pas. Soudain, à 1830 mètres d'altitude, un voyant jaune, une alarme stridente. L'ordinateur de bord a dépassé ses capacités d'exécution. Alors, est-ce qu'il faut interrompre la mission si près du but? À Houston, inutile de vous dire que c'est la panique. Les patrons de la NASA ont quelques secondes seulement pour prendre une décision. Heureusement, il y a un jeune contrôleur de 25 ans, il s'appelle Steve Bales, qui a passé des semaines à travailler sur le programme de cet ordinateur. Or, lors d'une simulation, il avait justement rencontré le même problème et l'ordinateur s'était bien comporté jusqu'au bout. Alors, on lui fait confiance et la mission continue. À 1000 mètres, nouvelle alarme, Aldrin et Armstrong pâlissent, décidément, c'est de la malchance. À Houston, tout le monde observe Steve Bales, à lui de décider. Et il secoue la tête. Oui, c'est bon, dit-il, on continue. Parvenus à 400 mètres de la surface de la Lune, les deux astronautes font un constat inquiétant. Ils ne sont pas du tout à l'endroit où ils devraient être, en tout cas s'ils se réfèrent aux simulations effectuées pendant les dernières semaines. De petits décalages liés aux conditions de vol réelles les ont déroutés, loin de l'endroit prévu pour l'alunissage. Or, ce qu'ils voient est terrifiant, d'énormes rochers qui entourent un cratère béant sur lequel le module a l'air de foncer tout droit. Alors Armstrong va prendre une décision grave, il enclenche la commande manuelle. Adieu le pilotage automatique, maintenant c'est lui qui tient la barre. Le problème, c'est que la jauge n'indique plus que 90 secondes de carburant et que les champs de rochers qu'il survole en ce moment n'autorisent aucun alunissage. 40 secondes, 30 secondes. Armstrong a repéré un endroit un peu moins accidenté, il y conduit le module, un voyant orange se met à clignoter, cette fois ça va être la panne sèche. Aldrin ferme les yeux, il prie, c'est ce qu'il racontera, tout le monde prie, de toute façon il est trop tard pour interrompre la mission, le temps de séparer les deux étages du module, celui-ci se serait déjà écrasé, ça y est, un voyant bleu vient de s'allumer, Eagle vient d'entrer en contact avec le sol de la Lune, ils ont réussi. Il est 3h52 hors de Paris, en ce très historique 21 juillet 1969. Le sort a désigné Armstrong pour sortir le premier, lentement, très lentement, il descend les barreaux de l'échelle, elle est trop courte, il saute. 3h56, là-bas, plus de 600 millions de terriens ont les yeux rivés à leur poste de télé. Armstrong pose un pied, si je puis dire, il foule le sol lunaire. Il prononce, vous savez, cette célèbre phrase qu'il a apprise par cœur après accord de la Maison Blanche et du président Nixon en personne. Ce n'est qu'un petit pas pour l'homme, mais c'est un bond gigantesque pour l'humanité. Cette fois, la réalité vient de rattraper la BD. On a bel et bien marché sur la Lune.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Extrait des planètes de Holst sur Europe 1. Il s'agit de Neptune, Franck.
Alors, ils sont rentrés, nos trois astronautes, évidemment, dans des conditions assez idéales, d'ailleurs. Tout ça s'est relativement bien passé. Et nous racontent, dans leur ouvrage sur Neil Armstrong, Marie-Christine Bernelin et Philippe Coué, la parade de l'équipage d'Apollo 11 sur Broadway à New York le 13 août 1969 fut sans conteste la plus importante manifestation publique organisée en leur honneur sur le territoire américain. 4 millions de personnes étaient présentes dans les rues de Manhattan pour acclamer les héros. Comme le voulait la tradition, leur voiture fut submergée par les traditionnels Tiger Tapes et d'autres projectiles pas toujours inoffensifs comme ces cartes perforées qui provoquèrent quelques dégâts. À Chicago, la ferveur des admirateurs n'avait jamais été aussi importante. Il y avait eu tant de serpentins lancés que les astronautes en avaient même été recouverts et certains en furent incommodés. Ça va être pour ces trois hommes et pour Armstrong, évidemment, que le sort avait désigné pour être le premier à poser un pied sur la Lune, ça va être le début d'une incroyable opération de promotion. Disons-le, Philippe Coué, hein, ça a été pour eux, leur vie a été transfiguré, disons-le.
Oui, tout à fait. On peut même parler de la deuxième partie de la mission lunaire, en réalité.
Ouais, c'est ça, en fait.
Donc, il y avait la mission sur la Lune, avec les objectifs scientifiques. Et puis ensuite, il fallait, en fait, porter la bonne parole et démontrer que tout cela avait été fait au nom de l'humanité tout entière et dans un esprit de paix. Et c'était des opérations qui avaient été montées dès les missions Gemini, au début des années 60. Il fallait savoir qu'en Union soviétique, il y avait le même type d'événement.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Il fallait glorifier, en fait, à la fois
en Union soviétique, c'était mieux organisé, les défilés et les parades. Hein. Aux États-Unis, ça prend des proportions un peu...
mais finalement, les visites, en fait, les voyages des astronautes à travers le monde, en fait, des deux côtés, en fait, du rideau de fer, avaient la même valeur, du moins la même ambition, celle de démontrer finalement la supériorité d'un système par rapport à un autre. Et puis pour Apollo 11, alors là, on a déployé tous les moyens et les astronautes vont voyager dans des dizaines de pays. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir véritablement le niveau, en fait, de la notoriété qu'ils ont atteint avec Apollo 11. C'était tout à fait considérable.
Alain Sirou, vous me disiez pendant l'interruption que vous avez bien connu, en tout cas, vous avez rencontré Neil Armstrong,
oui.
Vous.
Oui, un homme ordinaire face à un événement extraordinaire. C'est ça, quand on rencontrait Armstrong, on pouvait pas s'empêcher de se dire qu'on rencontrait l'histoire. Et je pense que c'est le problème qu'il avait avec les gens qu'il rencontrait, c'est que il pouvait se réveiller un jour en France, le lendemain en Ouganda, le jour suivant, enfin, il savait plus où il était vraiment. Donc il était pas préparé à cela, et pour tous ceux qui l'approchaient, il y avait un côté on rencontrait Christophe Colomb. Donc on savait que on allait toucher la main quand vous rencontrez, je dirais le pape, la reine d'Angleterre. Enfin,
c'est une personnalité très importante, mais c'est pas mythique. Alors
c'est
que
pas
là,
mythique. Ouais. Et donc il savait qu'il représentait les États-Unis. Il savait qu'il représentait un grand exploit, mais il était mal à l'aise dans cette peau-là. Donc il a petit à petit établi une distance telle qu'il y avait naturellement une séparation entre la stature de l'homme, de l'explorateur qui est venu pour toute l'humanité, comme disait Philippe, au nom de toute l'humanité, et puis ce qu'il était lui-même réellement.
Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur toute la deuxième partie de la vie, parce qu'il n'avait que 39 ans quand même au moment en question, et il n'a disparu qu'au mois d'août dernier. Donc nous allons revenir sur cette vie difficile, rendue difficile justement par l'extrême célébrité. C'est plus que de la célébrité, hein, comme vous dites, c'est ce qui s'appelle entrer vivant dans la légende, donc c'est toujours un peu difficile à vivre, probablement. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne évidemment sur ses origines. Alors, vous avez bien compris qu'on a laissé de côté Buzz Aldrin et Collins et que nous allons nous concentrer maintenant sur cette personnalité d'Armstrong. Et vous nous dites, vous, Marie-Christine Bernelin, qu'en vérité, il vivait assez mal d'ailleurs d'être considéré comme le plus important. Pour lui, c'était non pas l'exploit de trois hommes, c'était l'exploit de 400 000 en vérité.
Oui, tout à fait. Lui, il se considère comme le sommet d'une pyramide gigantesque. Mais il n'est qu'un ingénieur parmi d'autres, le plus visible, mais ce sont les circonstances qui vont l'amener dans cette visibilité. Alors, il n'est qu'un maillon de la chaîne.
Nous avons vu que les trois hommes étaient nés en 1930. Lui est né le 5 août 1930. Il est né dans l'Ohio. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs, hein.
Alors, sa naissance, c'est peut-être un hasard. Par contre, l'Ohio, c'est le berceau.
Je m'exprime mal. Sa naissance est un hasard, sans doute. Mais en tout cas, le fait qu'il soit né dans l'Ohio va avoir une influence sur lui.
Oui,
c'est ce que je voulais dire.
Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, l'Ohio, c'est pour les Américains le berceau de l'aviation, le berceau de l'aéronautique, puisque les frères Wright vont s'envoler pour la première fois depuis l'Ohio. Et donc, l'Ohio a une tradition aéronautique et sont organisés régulièrement pendant l'été des National Air Races à Cleveland, par exemple, en 1932. Et Armstrong va s'y rendre, emmené par son papa.
Il a deux ans.
Et il est parmi les spectateurs dans les gradins à Cleveland avec son papa.
Il fait son baptême de l'air à quel âge ?
À six ans. Toujours avec son papa. Par contre, son papa n'a pas du tout apprécié le baptême de l'air, mais ils ont profité d'une opportunité un dimanche matin. Et voilà, Neil, au-dessus de son domaine habituel, mais dans une situation un petit peu étrange pour lui, mais il est ravi.
Alors, dans cette belle biographie, vous nous montrez un Neil Armstrong qui n'est pas monoaxé. Certes, il est tôt passionné d'aéronautique, il fabrique des petites maquettes, etc. Mais il va aussi être musicien de jazz, oui. On va le voir faire du scoutisme, etc. Mais néanmoins, tout le ramène vers sa passion, vers l'aéronautique. Et ses études, notamment, vont littéralement le guider vers ça.
Tout à fait. En fait, très tôt, il a l'intention de devenir ingénieur en aéronautique pour concevoir des avions dans lesquels il pourrait voler plus tard. Donc il va choisir une université qui va lui permettre de réaliser ce rêve. Et donc, au lieu de prendre une université très prestigieuse comme le MIT, il va faire le choix de la proximité et d'une école réputée en aéronautique, à Purdue, dans l'Indiana, pas très loin de l'Ohio.
C'est à l'université qu'il rencontre celle qui va devenir son épouse.
Oui.
Il se marie le 28 janvier 1956 avec Janet Elizabeth Chiron.
Tout à fait.
Alors, elle est il faut nous dire un mot, elle joue un rôle important dans sa vie, en fait.
Pendant très longtemps, elle a été à ses côtés, ouais. Fidèle.
Pas jusqu'à la fin, nous le
pas
verrons, mais en tout cas...
Pas jusqu'à la fin, non, mais pendant très longtemps, elle a été celle qui s'occupe de la famille, des enfants.
Et des enfants, alors il y a un petit garçon d'abord, puis une petite fille, et là, c'est le drame, disons-le.
Oui, tout à fait. Karen Anne, très jeune, elle a un petit peu moins de 2 ans, quand on découvre qu'elle a une méningite, qu'on n'arrive pas à soigner. Et en fait, ça va être un drame terrible, qui va endeuiller le début de l'année 62, juste le jour de leur anniversaire de mariage. Elle a moins de 3 ans et elle va décéder.
Et d'ailleurs, quand on voit les états de service d'Armstrong comme pilote d'essai à ce moment-là, on se rend compte qu'il a beaucoup de problèmes.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas très connu parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il a eu cette petite fille. Il en parle très peu, il parle très peu de sa famille en général. Mais on se rend compte que finalement, dans ces quelques semaines suivant le décès de sa fille, il va avoir plusieurs incidents de pilotage. Et rétrospectivement, les médecins se sont dit que peut-être ils auraient dû l'arrêter pendant quelques semaines, le temps qu'il évacue le choc du décès de sa fille.
Il va surmonter évidemment ce choc et bien d'autres. Et nous allons voir ce qu'a été l'entraînement du héros de 1969.
Nous sommes toujours en compagnie d'Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, et de Marie-Christine Bernelin et Philippe Coué. Ils sont les co-auteurs de Neil Armstrong, un clin d'œil à la Lune, aux éditions A2C Média.
Et oui, une biographie de ce Neil Armstrong qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant. Ça a été l'un des grands événements de l'année 2012. Alors, ce Neil Armstrong, évidemment, il n'est pas devenu astronaute du jour au lendemain. Comment est-ce qu'un pilote d'essai se retrouve embringué, si je puis dire, dans des programmes comme ceux-là, Philippe Coué?
Je pense que c'est l'ambition en fait de conduire des machines de plus en plus complexes, sophistiquées. Il y a une course à la vitesse à l'époque qui attire bon nombre de pilotes, en particulier les pilotes d'essai qui cherchent en fait à maîtriser des engins de plus en plus complexes. Et quand le programme spatial démarre, évidemment
on a vu qu'en novembre 62 les choses sont établies, donc on peut lancer les entraînements actifs.
C'est-à-dire que en 62 commence le programme Gemini, qui doit permettre aux astronautes américains justement d'expérimenter toutes les techniques qui seront nécessaires pour aller sur la Lune, en particulier les sorties dans l'espace ou les rendez-vous spatiaux. Et donc c'est ces gens-là qui sont, comme Neil Armstrong, sélectionnés en 62, eh bien commencent à s'entraîner, mais s'entraîner très durement, à la fois en fait au pilotage des engins, mais tous les aspects d'une future mission lunaire, c'est-à-dire par exemple des séances de géologie ou des séances pour reconnaître les étoiles dans des planétariums, etc. Donc, une vie extrêmement dense où il faut aussi participer au développement des vaisseaux. Parce qu'on ne sait rien à l'époque. Et donc, l'apport des pilotes d'essai...
Les pilotes font partie de l'équipe technique, directement.
Ils font partie de l'équipe technique et ils vont aider, en fait, au développement de ces engins spatiaux.
Est-ce qu'Armstrong présentait une habileté particulière? Est-ce qu'il était plus doué que d'autres?
Enfin, c'est du moins ce que considérait la NASA. Dès la première sélection, Neil avait déjà participé, en fait, à des programmes expérimentaux qui n'ont pas abouti, mais qui montraient déjà une aptitude particulière, en fait, à définir avec les ingénieurs les problèmes d'ergonomie ou tout autre qui amènerait en fait à faire des véhicules opérationnels.
Alors cet homme comment dire, montrer une grande solidarité. J'ai dit qu'il avait été scout dans son enfance, mais il avait ce sens de l'équipe et il rend très volontiers hommage aux autres pilotes, aux différents ingénieurs avec lesquels il était amené à travailler, etc. Il y a cette dimension en quelque sorte toujours très solidaire.
Oui, complètement. Comme il a toujours dit, il se sentait partie prenante d'une équipe. Et à ce titre-là, il était absolument solidaire de tous les autres. Il n'y avait pas d'esprit de compétition chez Armstrong pour obtenir un commandement ou un autre. De toute manière, il y avait Dick Sletton qui était le patron des astronautes et qui veillait pour que toutes ces choses-là se passent bien et qui finalement, c'est lui qui faisait les sélections et on le suivait. Mais en aucun cas, Armstrong a mis en cause en fait ses, les affectations. Où,
Vous racontez cet accident de 64, cet incendie de la maison où ils sont sauvés parce que lui dormait en fait. Hein. Ils sont sauvés par un voisin, White, qui va se trouver être, quelques années plus tard, en janvier 67, il va se trouver être victime, lui, du fameux drame de oui, mission Apollo, d'Apollo 1.
Ça, c'est vraiment Apollo 1. Pour Armstrong, c'est un véritable drame, parce que la famille White, ce sont ses voisins, des voisins et amis. Ils sont arrivés au même moment à Houston, en 62, et effectivement, il va trouver complètement injuste que celui qui a sauvé sa famille des flammes puisse se retrouver, en fait, en janvier 67, au milieu du brasier d'Apollo 1.
Alors, d'un mot, bien sûr, Marie-Christine Berlenin, parce qu'il nous faudrait encore beaucoup de temps, mais d'un mot, comment devient-on, redevient-on un homme normal après avoir été le premier homme à mettre un pied sur la Lune? Ça a dû être très difficile, la réacclimatation, en quelque sorte.
Alors, d'abord, dans le caractère d'Armstrong, après la Lune, il ne peut pas envisager de faire autre chose à la NASA. Mm-hmm. Pour lui, c'est l'aboutissement de cette carrière.
Il faut faire autre chose, hein, il faut sortir.
Donc, en fait, il a annoncé, tout comme d'ailleurs ses deux autres collègues du vol Apollo 11, qu'il ne redemanderait pas de mission Apollo. Alors, ils vont rester quand même liés un peu à la NASA, puisqu'ils ne vont pas hésiter à être présents lors de chaque commémoration de ce fameux vol d'Apollo 11. Mais Armstrong, lui, va retourner dans son Ohio natal. Il va devenir professeur.
Jusqu'en 79.
Voilà,
fait,
hein. Donc en fait, il y a des élèves qui vont l'avoir comme professeur de mécanique du vol. Et puis, il va aussi être dans les affaires, surtout des sociétés toujours liées à l'aéronautique, parce que c'est quand même le domaine de prédilection de Neil Armstrong. Il va aussi piloter pour battre des records de Learjet. Et il va aussi avoir une parenthèse un peu bucolique, puisqu'il s'est mis dans l'idée d'avoir une ferme dans l'Ohio.
Mais enfin, ces espèces de grands commandeurs américains voilà. qui deviennent un peu le gentleman farmer.
Tout
on connaît ce profil.
Par contre, comme il a un emploi du temps extrêmement chargé, c'est plutôt sa femme, Janet, qui va s'occuper de la ferme. Et au bout d'un moment, elle va en avoir assez et elle va le quitter après lui avoir demandé juste quelques jours de vacances. Et il lui répond, mon agenda est plein pour un an. On verra ça dans un an. Donc, elle a décidé que non, c'était trop et elle le quitte.
Mais les 20 dernières années de sa vie, il les passera avec une seconde épouse. Hein.
Tout à fait.
En vérité, Neil Armstrong, un clin d'œil à la Lune de Marie-Christine Berlenin et Philippe Couet. C'est donc chez A2C Média. C'est une biographie de ce personnage extraordinaire. Alors, si l'on veut jouer au cosmonaute, il y a un moyen. Je voyais passer un communiqué de presse qui parlait de Novespace. Ouais. On peut vivre des conditions d'apesanteur, en fait. Ça coûte un peu cher, c'est la seule chose. Hein,
oui, sans être obligé de décrocher la Lune, puisque c'est déjà fait. Donc, ça reste fantasmatique, l'espace. Et c'est vrai que, même si la France n'a pas de programme propre de vol habité, on a toujours des astronautes qui volent à bord de la station, mais tout un chacun peut, je dirais, utiliser quelques moyens d'essai pour les astronautes. Et c'est ça, la société Novespace dont vous parlez, c'est un avion qui...
Reste dans l'atmosphère.
Oui, ça fait des dos d'âne, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez de la chute libre.
C'est un A300, en fait. Hein.
L'avion monte, et puis chute, et vous tombez. Et pendant 25 à 30 secondes, vous tombez comme dans un ascenseur, sauf que on vous récupère quand même, puisque l'avion fait une ressource, et puis pendant 30 secondes, vous flottez.
Ça dure 26 secondes, ils disent, c'est ça, au mieux.
Oui, puis vous pouvez le refaire plusieurs fois. le siège coûte aux alentours de 6 000 €, je crois, et ça doit être plein pour 2-3 ans. Mais je dirais que ce qui est important à retenir, c'est que l'espace reste quelque chose de fantasmatique.
Ça sert à quelque chose, il faut dire. Ça permet de faire des expériences en apesanteur, des choses
comme
ça.
Oui, en tout cas pour les astronautes de se préparer. Oui, voilà. Et puis je dirais, on passera à l'étape suivante qui sera d'accéder à l'orbite jusqu'à 100 km d'altitude dans le futur. Et puis si vous avez 40 à 50 millions de dollars, vous pouvez vous acheter un siège. pour partir avec les Russes à bord de la station. Et puis peut-être, si vous avez entre 100 et 200 millions d'euros, faire le tour de la Lune.
Ce qui est mon cas, par exemple.
Pour le
oui,
futur.
Moi aussi.
Voilà.
Il faut faire un crédit, peut-être.
Donc, il faut être un petit crédit. Enfin, non, je dirais que ça reste fantasmatique. L'espace reste une frontière à repousser, comme disent les Américains. C'est
ce qu'on adorerait, c'est que le mémorandum, enfin, il y a un agenda, là, de l'administration Obama.
Absolument.
On aimerait qu'une nouvelle dynamique soit lancée en faveur de
l'espace. Que ce moteur s'est grippé, puisque quelque part la compétition américano-soviétique a disparu, donc on essaiera de se protéger pour les astéroïdes dans les visitants, et puis Mars, fin du 21e siècle, 22e peut-être.
Alors j'ai eu la chance, là, j'en ai profité pendant les vacances, j'avais deux revues que connaît bien Alain Sirou, n'est-ce pas ? Macrocosme, c'était le numéro 3 de l'univers en images, l'hiver 2012, c'est sûr. Alors là vous avez un incroyable reportage, notamment sur Baïkonour.
Ouais. Ouais. Hein,
c'est tout à fait.
Dans les pas de Gagarine, puisque chaque astronaute cosmonaute qui part dans l'espace suit le rite Gagarine jusqu'à regarder le même film noir et blanc qu'a observé Gagarine.
Et puis dans Ciel et Espace, votre magazine bien connu, numéro de janvier 2013, vous nous dites que cette année va être l'année des comètes. Et alors du coup, je vous promets qu'on va avoir tendance à lever les yeux vers le ciel, parce que ce que vous nous annoncez est assez spectaculaire. Merci beaucoup Alain Sirou d'avoir été des nôtres pour cette première émission de l'année.